On va passer maintenant à l'intervention de Mireille Manga, qui va nous parler de la participation politique par l'éthique des migrants camerounais.
Bonjour, je suis Mireille Manga, doctorante à l'Université Yaoundé 2 au Cameroun, rattachée au Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Donc, éthique et participation politique des migrants camerounais, je vais essayer de structurer mon propos en trois parties, en fait, trois petites parties, parce que, en fait, la première, déjà, qui consistera à dire comment ce sujet de recherche, pourquoi. La deuxième partie, vous parlez du saut qualitatif des migrants camerounais dans l'espace public numérique. Et puis à la fin, on va essayer de faire un balayage rapide comme ça d'un site que les migrants camerounais investissent beaucoup et qui est en train d'acquérir une grande visibilité au plan national. Donc, je commence comment ce sujet de recherche. Ce sujet de recherche est né quand j'étais en DEA. Je réfléchissais sur quoi travailler. Après, j'ai pensé aux diasporas camerounaises. La question que je me suis posée, c'était quoi? Est-ce qu'une fois qu'on quitte son pays, on continue à s'intéresser à ce qui se passe sur le plan politique, à ce qui se passe dans son pays sur le plan politique? Ou alors on coupe les liens, ou alors on s'en fout, on se concentre plutôt sur son intégration dans sa société d'accueil? Réponse à cette préoccupation, je me suis rendu compte que oui, qu'une fois qu'on part, on ne coupe pas les liens, mais on cherche plutôt à maintenir, à développer un certain nombre de liens. Et comme ça, mon sujet de DEA s'est intitulé « La participation des diasporas camerounaises à la vie politique nationale », deux points, émergence et consolidation de la citoyenneté à distance. Donc, en conclusion, j'ai découvert qu'il y a une citoyenneté qui se développait à distance. Et comme ça, parmi les différents éléments manipulés dans leur situation, dans leur contexte migratoire pour s'intégrer dans la vie politique nationale, il y avait les TIC. Dans le cadre de ma recherche doctorale, j'ai donc dit, j'ai fait un grand balayage, maintenant je me concentre sur ce petit aspect qui est éthique et participation à la vie politique nationale. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'espace public national? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'espace public ou alors sur les discours politiques nationaux? Est-ce que tout ce que les diasporas font à travers Internet ou à travers l'éthique ont un impact ou une certaine influence, entre guillemets, sur les discours qui seront développés par leurs concitoyens au plan national? Ça, c'est une recherche en cours, mais j'ai quelques éléments de réponse déjà que je vais essayer de partager avec vous. Donc, qu'est-ce que la diaspora camerounaise? Elle s'est progressivement constituée depuis 1950, mais entre 1950 et 1970, on a une diaspora camerounaise, notamment en France, principalement constituée d'étudiants, réunis au sein d'une association appelée Association des étudiants camerounais de France. Plus tard, qui va changer de nom pour devenir l'Union nationale des étudiants du Cameroun. Pourquoi ce changement de nom? Parce que entre 1950 et 1960, on est dans un contexte de lutte pour l'indépendance du Cameroun. Et cette diaspora-là qui change de nom, elle va être fortement influencée. En fait, cette association de Camerounais qui change de nom pour devenir UNEC va fortement s'impliquer pour soutenir le mouvement nationaliste au Cameroun, qui était principalement animé par l'Union des populations camerounaises, en abrégé UPC, qui représentait l'un des principaux mouvements nationalistes au Cameroun. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment, en fait, progressivement, les rapports entre l'UPC au Cameroun et l'UNEC en France comment est-ce que les rapports vont se consolider? L'UPC au Cameroun, qui a besoin d'un soutien extérieur dans sa lutte pour l'indépendance du Cameroun, va essayer de rentrer en contact avec les Nations Unies pour faire pression sur les autorités coloniales. Mais c'est difficile parce que l'UPC au Cameroun, pardon, autant pour moi, se rend compte quand même qu'elle a une ressource qui est à l'extérieur et qui pourrait plus facilement se mobiliser pour se rapprocher au sein du système des Nations Unies pour pouvoir faire pression sur les autorités coloniales. En fait, c'est de là un peu que part l'histoire de la diaspora camerounaise dans son implication dans la vie politique nationale. Progressivement, cette diaspora va se développer, elle va croître. Excusez-moi, vous allez me pardonner de ne pas pouvoir vous donner des chiffres parce que sur les statistiques diaspora camerounaise dans le monde, je n'ai pas encore des chiffres précis. Je le dis n'importe quoi, je préfère ne pas en parler. Donc en 90 maintenant, avec la démocratisation, les mouvements de démocratisation au Cameroun, la libéralisation de la vie politique, on va connaître le passage d'un système monolithique à un système un peu plus en fait démocratique, qui cherche à se démocratiser, la libéralisation de la vie politique, qui va entraîner la naissance d'une multiplicité de partis politiques, et comme l'UPC vont chercher du soutien à l'extérieur. Et c'est comme ça que ces partis politiques là vont chercher à rentrer de plus en plus en contact avec ces populations qui sont à l'extérieur pour soutenir leur mouvement au plan local. Donc, dans les années 90, non, on a une excroissance de l'engagement. En fait, on a un développement de l'engagement de la diaspora camerounaise pour la vie politique, mais aussi on a une diversification et une population un peu plus hétérogène et encore plus hétérogène dans les années 2000, à partir de 2000, avec les TIC, la dispersion et tout ça, l'Union européenne, les mouvements et tout, les mobilités qui s'accroissent. Donc ça, c'est un peu ça. Mais comment on arrive à une diaspora qui s'intéresse aux TIC pour participer à la vie politique? En réalité, le lien fort que le soutien extérieur que l'UPC, dont a bénéficié le mouvement nationaliste au plan local pour soutenir ou pour lutter contre les autorités d'abord coloniales, ensuite le pouvoir politique, a donné une connotation un peu négative à la diaspora camerounaise, ce qui conduit le gouvernement, les autorités politiques locales en 1968, d'abord à supprimer le principe de double nationalité, mais après on a le droit de vote qui n'est pas reconnu à la diaspora camerounaise. Tout ça, ça ne décourage pas la diaspora, mais au contraire, ça la motive. Nous n'avons pas de droit, mais nous n'allons pas croiser les bras. Il faut trouver des moyens alternatifs pour essayer de contourner ces blocages administratifs et nous impliquer de manière considérable dans la vie politique. Mais ce qui va faire boom et ce qui va plus m'intéresser, ce sera le saut qualitatif que les migrants font dans l'espace numérique, les migrants camerounais feront dans l'espace public numérique. Lorsqu'en 2004, en juin 2004 précisément, il y a une rumeur qui est propagée depuis les États-Unis sur le décès, entre guillemets, du président de la République, Paul Biya. On fouille les sources. D'où vient la rumeur? Par qui est-elle menée? Par qui on se rend compte que, en fait, certaines sources, pour la plupart, disent c'est un Camerounais exilé aux États-Unis qui a diffusé la rumeur. À partir de quoi? À partir de son site www.africanindependent.com, où sur lequel on pouvait trouver toute une page qui commentait en fait la rumeur sur le décès du chef de l'État. En fait, la page affichait plusieurs versions. On avait deux versions principales. Une version qui disait qu'il serait mort dans un hôtel, dans l'hôtel intercontinental en Suisse, et une autre version qui disait qu'il serait mort dans un hôtel londonien. Alors et entre-temps, au-delà de ça, il y a eu des mails, il y a eu des appels téléphoniques qui venaient aussi bien de l'étranger que même de l'intérieur du pays. Moi-même, je me souviens à cette époque, je préparais un examen et j'avais reçu aussi un coup de fil me disant il paraît que Paul Biya est mort. Tout ça, c'était la panique. C'est un week-end, trois jours de folie, de vendredi soir à dimanche 13h. Rien, aucune réaction, ni des institutions, des hautes institutions de la République, donc de la présidence, ni aucune réaction de l'extérieur pour essayer de taire la rumeur. Rien. Tout le monde est dans la panique, tout le monde est dans la folie. Et alors, ce n'est qu'à 13h dimanche, on est vendredi 3, samedi 4, aucune information. Dimanche 5 à 13h, c'est à dimanche 5 à 13h que le secrétaire général de la présidence a pris la parole pour essayer de démentir la rumeur sur le décès du chef de l'État. Non, mais après, ce qui est intéressant et ce qui, moi, va m'intéresser davantage, c'est tout ce que cette rumeur va entraîner après au plan institutionnel, en fait. C'est-à-dire qu'une semaine et demie plus tard, on a la création, à l'initiative, je suis sûre, du chef du gouvernement, mais par le biais du ministre de la Communication, d'un système de veille d'alerte cybernétique. Qui devait être géré par le ministère de la Communication et qui consisterait à surveiller tout ce qui viendra d'Internet, surtout de la diaspora.